À l'écoute de Radio Orient, bienvenue à toutes et à tous, amis auditeurs. Bien sûr, dans le cadre de votre émission Sawa Ensemble, on parle de plusieurs sujets qui nous intéressent et aujourd'hui on va se pencher sur la question psychologique, comment gérer les crises sanitaires de telle ampleur comme cette pandémie qui touche le monde entier et nous touche aussi particulièrement ici en France. Et comme vous le savez si bien, la crise du coronavirus influence bien évidemment nos comportements, mais qu'est-ce qui détermine nos réactions en situation de crise? Pourrait-on prédire nos comportements de solidarité et nos actions raisonnées ou au contraire nos incivilités aussi et nos mouvements de panique, peut-on les gérer aussi? Pour en parler avec nous, le docteur Souad Cousinier Lazare, psychologue, clinicienne, psychothérapeute au sein d'un centre hospitalier spécialisé aussi et en libéral engagé dans plusieurs associations d'aide aux personnes en souffrance. Docteur Souad Cousinier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de participer dans cette émission. L'attente est grande et vous, à l'instar de beaucoup de professionnels, de psychologues, de solidaires, vous avez lancé une action dernièrement pour venir en soutien des gens qui en ont besoin et surtout le personnel soignant, donc des téléconsultations gratuites pour tous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette action?
Oui, bien sûr. Eh bien, écoutez, j'ai participé à cet élan de solidarité que on trouve en France et partout dans le monde, des élans de solidarité de professionnels et des habitants, des concitoyens français. C'est quelque chose qui est très rassurant et qui fait vraiment plaisir. Chacun, en fait, peut aider, chacun peut contribuer, peut apporter son aide. Et moi, dans cette situation de confinement, hein, comme tous les Français, eh bien, j'ai réfléchi pour savoir comment aider, comment je pouvais aider. Et il y a eu cette solidarité au niveau des soignants. Hein, c'est les premières personnes qui sont sur le front.
Absolument.
Qui s'engagent et qui pleinement, sans réfléchir, et qui sont vraiment tous les jours sur le terrain. Et moi, en tant que professionnelle de la santé, également psychologue, j'ai souhaité apporter mon aide en...
Ah, ça a coupé?
Des temps.
Ça a coupé,
Oui.
Donc vous avez donc décidé de vous engager dans cette action?
Absolument. Donc on est plusieurs psychologues. On s'est inscrit sur une plateforme qui répertorie tous les noms des psychologues partout en France. Mmh. Et tous les soignants peuvent aller sur cette plateforme qui s'appelle Solidaire, Psychologue Solidaire, et demander des temps d'écoute pour parler de ce qu'ils sont en train de vivre au quotidien, dans leur travail. Mmh. C'est une situation, hein, comme vous le savez, inédite,
absolument,
nouvelle pour tout le monde. Et les soignants ont besoin d'être soutenus par toute la population française, par tous les Français et par les professionnels également.
Est-ce que c'est destiné juste envers le personnel soignant ou éventuellement les gens qui en ont besoin peuvent vous joindre aussi?
Absolument. Alors, il y a plusieurs situations. Là, la plateforme Solidaire, les psychologues solidaires, c'est essentiellement, uniquement pour les soignants. Mais je vois tous les jours sur Internet des nouvelles initiatives très très intéressantes de psychologues, psychanalystes, psychiatres qui proposent également pour les citoyens lambda, donc monsieur, madame, tout le monde, des temps d'écoute. Alors là, dans l'école de ma petite fille par exemple, j'ai vu qu'il y avait une psychologue aussi qui a proposé à toutes les familles de l'école de demander un petit temps de consultation gratuite. Et donc voilà, il y a des situations comme ça, solidaires, des actions nouvelles tous les jours qui sont isolées, et je trouve que c'est assez intéressant de communiquer sur toutes ces actions pour aider vraiment chacun à sortir de cette situation qui est très, 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 très inédite et très compliquée.
En tout cas, le concept est très bon et je pense qu'il a besoin d'être multiplié partout en France et à l'étranger. Donc, la plupart des psychologues présents ont des techniques complémentaires permettant d'accompagner les aides-soignants, les médecins, etc. Ils en ont besoin. C'est des êtres humains. De toute façon, en sophrologie, relaxation, méditation, etc.
Absolument.
Et pour revenir, docteur, justement, à cette action, comment ça marche concrètement sur le terrain?
Alors, concrètement, alors déjà, dans les centres hospitaliers, on a ouvert des cellules psychologiques. Donc, les psychologues vont rencontrer les soignants, proposer des analyses, un petit peu des temps d'analyse, des temps sur ce qui a été vécu, sur des situations qui étaient très, très problématiques et pour lesquelles les soignants ont été déstabilisés, ou ont ressenti beaucoup trop d'émotions et beaucoup trop d'enjeux. Hein. Donc, le psychologue, il permet il crée un espace de parole, un espace où, voilà, les choses, elles peuvent se dire, elles peuvent se déposer. Et le fait de parler, on le sait, la parole a un pouvoir extraordinaire. Hein, ça soulage, ça permet aussi de prendre un peu de recul. Et nous, en tant qu'êtres humains, on a besoin de cette communication. Donc c'est vraiment poser, mettre des mots sur des situations qui sont vécues au quotidien. Et ça permet un peu de prendre du recul, réfléchir sur ses émotions, réfléchir sur le ressenti. Et c'est très, très important. Donc là, c'est dans les hôpitaux, il peut y avoir ces cellules psychologiques d'urgence proposées aux soignants. Et puis, il y a ces plateformes dont on a parlé, qui sont, c'est tout nouveau, qui permettent là de proposer aux soignants vraiment par téléphone ou par Skype.
Téléconsultation, donc par téléphone ou par Skype.
Ou par Internet, absolument. Alors moi, dans le cadre de mon activité privée, je le propose aussi pour mes patients. J'ai fermé le cabinet pour respecter les règles et ce que dit le gouvernement. C'est vraiment de rester chez soi. C'est très, très, très important que nous puissions respecter cette règle pour ne pas propager le virus. Et donc, j'ai fermé le cabinet. Je suis passée en téléconsultation. Donc, c'est le patient choisit soit de parler au téléphone, soit via Skype à travers une plateforme sécurisée. Et donc là, on peut continuer le suivi psychologique ou proposer des consultations ponctuelles qui peuvent vraiment aider les personnes à aller mieux.
En tout cas, on n'est pas tous égaux face à l'adversité, face à ces crises sanitaires inédites. Justement, la crise du coronavirus influence bien évidemment nos comportements, mais qu'est-ce qui détermine, docteur, nos réactions en situation de crise?
Alors effectivement, comme vous l'avez très très bien dit, nous ne sommes pas tous égaux face aux situations de crise. Là, nous vivons une situation inédite, nouvelle. Alors tout ce qui est nouveau peut être source d'angoisse, parce qu'on ne sait pas vers quoi on va, on ne sait pas comment, jusqu'à quand ce confinement va durer, on ne sait pas.
La peur de la mort aussi.
Alors bien évidemment. D'abord, il y a la situation nouvelle. On nous demande de rester chez nous, c'est la première fois, et on n'est plus en contact avec les autres. Ou alors on est en contact mais différemment. Et donc ce changement de rythme, ce changement d'habitude a des répercussions bien évidemment psychologiques. Et là, chacun va réagir avec sa personnalité, avec ses ressources, avec son histoire, avec la vie. Alors moi, j'ai beaucoup de patients, par exemple, qui ont des phobies sociales. Finalement, je me rends compte qu'ils s'en sortent quand même pas mal, parce que le confinement, c'est quelque chose qu'ils connaissent déjà. Ils sont souvent enfermés chez eux, donc l'extérieur est dangereux. Eh bien, dans cette situation, même si elle est très anxiogène, le fait de rester à la maison, ce n'est pas un problème. Et il y a des personnes qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui hyperactifs, qui ont besoin du lien social, qui ont besoin d'être toujours à l'extérieur, de faire de plusieurs activités, de travailler, de sortir le soir, aller boire un verre avec des amis ou se retrouver dans des après-midi café avec des amis. Voilà, tout ça, eh bien, on est obligé aujourd'hui de le stopper. Pour stopper la propagation du virus. Et donc, forcément, ça va avoir un impact psychologique sur le comportement. Et là, chacun va réagir à sa manière. Alors, il y a des choses qu'on peut faire quand même pour limiter au maximum tout ce contexte un peu anxiogène. Hein, tout à l'heure, si vous voulez, j'en parlerai. Mais je voulais quand même parler tout d'abord des conséquences de ce confinement, les conséquences immédiates qu'on peut ressentir très rapidement ou qui peuvent s'installer progressivement dans le temps. Alors il y a les conséquences somatiques, il peut y avoir des troubles du sommeil, les troubles alimentaires également, avec une perte d'appétit ou au contraire une boulimie. Voilà, de manger, ça rassure, ça sécurise. Ça répond aussi à l'angoisse, ça calme l'angoisse. Manger, ça peut apporter une réponse émotionnelle. Il peut y avoir également des douleurs musculaires, des maux de tête, des problèmes digestifs, qui en plus correspondent un peu aux symptômes qu'on entend tous les jours à la télé, pour ceux qui écoutent les infos. Voilà, l'être humain peut, dans une situation très anxiogène, développer des symptômes qui n'ont rien de somatique, mais qui sont du coup plutôt psychosomatiques. Il y a aussi les conséquences psychologiques. Le confinement, c'est aussi un repli sur soi. Ça peut amener des humeurs dépressives, une anxiété générale, des ruminations, une agressivité, un ennui, une solitude, un sentiment d'impuissance, une peur.
Il faut parler aussi de certains cas de famille où les histoires de couple peuvent se répéter pendant cette période de confinement. Absolument. Où la femme est sous la pression d'un mari qui est déjà violent. Et ça peut, enfin, il y a des appels actuellement ou dernièrement de certaines femmes qui concernent les violences conjugaux. Donc ça amplifie ce phénomène pendant le confinement.
Absolument, ça peut tout à fait amplifier, parce que là, vous imaginez, le couple se retrouve en tête à tête, enfin, toute la journée, enfin, 24 heures sur 24, il n'y a pas de coupure, le travail ne permet pas un peu de prendre cette distance. Les enfants aussi ne vont pas à l'école, et parfois l'école est un refuge pour les enfants qui subissent des violences. Violence de maltraitance, de violence sexuelle aussi, c'est une réalité. Et dans toutes les familles, dans toutes les catégories sociales, dans toutes les cultures, c'est une question qui est universelle. Et donc, effectivement, la violence, elle est présente et elle peut être exacerbée, c'est-à-dire vraiment beaucoup plus forte, parce qu'il y a un contexte aujourd'hui qui est anxiogène. Il y a également la question du travail. Les parents, parfois, ont l'angoisse de perdre leur travail, et ça peut avoir des répercussions dans leur comportement. Donc on voit effectivement...
La peur de demain.
La peur du lendemain, la peur de la mort. Là aussi, nous ne sommes pas tous égaux.
Et puis là, le constat, docteur Souad Cousinier, est fait. Bien sûr, on aura tout le loisir d'y revenir. La seule chose, ceux qui nous écoutent, nos auditeurs qui sont des milliers à nous écouter chaque jour, voire plus, qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous leur donnez comme astuce pour casser cet ennui, ces peurs, gérer ce stress?
Alors oui, effectivement, il y a des choses qu'on peut mettre en place pour limiter effectivement les effets négatifs du confinement. Alors, moi, je dirais premièrement, c'est de privilégier les échanges téléphoniques, les appels vidéo avec son entourage. Ça, c'est primordial, très important. Prendre le contact, garder le contact avec l'extérieur. Pas de repli sur soi, pas de repli dans sa maison. Il faut garder le contact avec l'extérieur. Pour les personnes en plus qui vivent seules habituellement, il est absolument nécessaire d'entretenir un maximum de contact avec la famille. Ça, c'est une première, un premier point. On peut également développer sa spiritualité. Ça peut effectivement aider. Alors, certains vont développer la méditation, qui est un temps de recueillement, de repli sur soi, mais qui est un temps très positif.
En tout cas, je vous assure, Dieu n'a jamais été aussi sollicité que ces derniers temps.
Hein. Je pense. Et oui, nous sommes dans un temps d'incertitude, et effectivement, la spiritualité peut apporter une réponse et un apaisement, clairement. Mmh, mmh. Dans les préconisations, il y a la communication, effectivement. Il faut absolument, c'est nécessaire que chacun, chaque membre de la famille puisse parler de ses appréhensions, de ses peurs, de ses craintes, et que ça soit entendu, et que les parents puissent apporter des mots apaisants, des mots rassurants. Mais c'est très important que chacun puisse parler de ses angoisses. Mmh. Hein? Donc vraiment respecter, créer des moments de communication en famille. Il y a un point très important également, c'est d'organiser, structurer, équilibrer les journées. Parce que les journées passent et les journées se ressemblent. Mmh. Et oui, malheureusement. Et donc c'est impératif que les parents fixent des temps très définis, des temps d'activité, des temps de calme, des temps d'échange, des temps de discussion, des temps de travail également, hein, parce que c'est important de garder le travail scolaire pour les enfants et pour les parents qui sont en télétravail. C'est important de maintenir cette activité, hein, parce que ça va apporter une image positive de soi, hein, de produire, de faire quelque chose, de se rendre utile. Ça aussi, c'est très, très important. Mmh. Donc, il faut structurer les journées. Le matin, vraiment, s'habiller. Je préconise vraiment, il faut se lever, s'habiller, faire sa toilette et programmer les activités de la journée. Voilà, avec des horaires, écrire avec des couleurs pour séparer les différents temps dans la journée. Ce qui va permettre vraiment de ne pas être dans la confusion.
En tout cas, la nécessité crée l'invention.
Absolument. Là, on fait appel à l'imaginaire et à l'imagination, à la créativité, mm-hmm. très important. Effectivement, prévoir des temps aussi de créativité, des temps de coloriage, des temps de dessin, des temps où on joue, des temps un peu où on va rire ensemble. Ça, c'est très important. Pour les parents qui travaillent à la maison, c'est important de séparer les lieux. Si possible, dans la mesure du possible, les lieux de famille, de vie de famille, et les lieux où on peut travailler, s'isoler un petit peu dans la chambre. Pas sur le lit, mais dans la chambre, voilà, s'isoler, créer des espaces où chacun va pouvoir un petit peu se poser et se reposer sans être tout le temps en permanence sollicité par l'autre. Hein, ça, c'est très important. Faire preuve de tolérance, d'écoute, de compréhension dans la famille, hein, ça rejoint un peu ce que je disais avec la communication. Il faut être en mesure d'écouter ce que les enfants ont à dire par rapport à cette situation anxiogène. Il faut être en mesure d'apporter aussi des réponses, et pour ça, eh bien, il faut créer des temps d'écoute et de tolérance et de parole. Pour les adolescents, eh bien, le fait d'être privé de liberté, ça peut être très mal vécu. Parce que l'adolescence, vous savez, c'est cette période de vie où les relations sociales, en dehors de la famille, les amis, les relations amoureuses, elles sont au centre de toutes les attentions.
C'est clair.
Et du coup, le confinement, ben, ça casse. Ça casse, justement, ce rythme-là. Et donc, ben, les réactions, hein, les conséquences, elles peuvent être très difficiles, hein, et mal comprises par l'environnement, comme des réactions d'impulsivité, d'agressivité, de conflits avec la fratrie, hein, les frères et sœurs, des disputes. Il peut y avoir vraiment des disputes quotidiennes. Hein. Mmh. Et donc là, c'est très important d'entendre son enfant, de l'isoler, de prendre 3 minutes, de discuter et de trouver un accord, un accord avec l'adolescence, de signer des contrats avec lui pour son implication dans la maison, pour son implication dans le travail de ses frères et sœurs, de responsabilisation. Ça, c'est très important. Parce que du coup, l'adolescent va se sentir très...
utile.
Voilà, très utile, hein, voilà, absolument, très utile. Et on lui reconnaît une place, on lui reconnaît une responsabilité, ça peut être très narcissisant.
C'est absolument qui valorise sa place dans la famille. En tout cas, docteur, une dernière question concernant ce manque qu'on a de culture concernant la gestion de crise. Nous manque-t-il une culture, docteur, de gestion de crise? Comment doit-on la développer en une, deux phrases comme ça? Mais de toute façon, on vous lâchera pas. On aura besoin de vous les jours à venir.
D'accord. Alors déjà, il faut se dire que cette situation, elle est temporaire. Hein, et c'est important de se projeter. Il est très important de se dire qu'il va y avoir un après. Un après avec des projets. Et ça, déjà, s'accrocher à des choses très positives. Mm-hmm. Des choses aussi qu'on a fait dans le passé de bien. Des choses qui nous ont valorisées. Il faut se rappeler, sortir des photos, des albums photos qui vont nous remémorer.
Une bonne idée.
Voilà, on va se remémorer de bons moments, des choses qu'on a faites de bien et qu'on pourra continuer à faire. Donc tout ça, c'est des gestions de crise. C'est s'accrocher à ce qu'on vraiment du
ce qu'on a de
faire
meilleur.
Faire des activités, les valoriser. Ah tiens, on va faire un gâteau avec les enfants. C'est atelier gâteau, vous voyez. Habituellement, la maman peut faire seule son gâteau. Et ben là, ça va être l'activité familiale de gâteau.
Voilà.
Donc c'est impliquer au maximum les autres et faire des choses très concrètes.
Alors, c'est le maître mot ou le mot de la fin. On le finit avec du gâteau, du sucre, du bonheur, de la joie.
Positif.
Et absolument. Puis on aura la joie de vous rappeler encore prochainement, docteur. Merci infiniment pour votre participation. Je rappelle que vous êtes psychologue, clinicienne, psychothérapeute au sein d'un centre hospitalier spécialisé et vous exercez aussi en libéral, engagé dans plusieurs associations d'aide aux personnes en souffrance. Merci beaucoup, docteur Cousinier-Lazare.
Merci.
À bientôt.
Au revoir.
Prenez soin de vous. Au revoir.
Merci.